Chapitre 13, Mémoire d'Échalot, commencé en décembre 1863. Voilà donc pourquoi je prends la plume, sachant écrire pas mal, par suite d'avoir été apprenti pharmacien dans mon adolescence et de fil en aiguille divers autres états où il est bon d'avoir été à l'école, tel qu'agent d'affaires, etc., avant de passer modèle pour le torse, puis artiste en foire, et finalement associé de ma chère compagne Amandine, veuve légitime de Monsieur Canada, ancien directeur, de laquelle j'aime à consigner ici ses vertus et qualités, attendant avec impatience de pouvoir lâcher définitivement la baraque, avec fortune faite pour la conduire à l'hôtel, dans le double but de nous régulariser notre position civile, et un autre projet que je marquerai ci-après plus au long. C'est parce que tous les tempéraments, même les mieux constitués, comme le mien et celui d'Amandine, étant sujets à périr avec le temps, je désire laisser derrière nous une trace palpable des événements qui ont amené à la maison l'aisance et la bénédiction sous la forme de notre première danseuse de corde, Mademoiselle Saphir, élève de moi pour le maintien, de Mademoiselle Freluche pour la danse et de Saladin pour les belles lettres. À cette fin que si ses vrais pères et mères vivent encore, elle puisse les retrouver par hasard et jouir de leur amitié dont elle les digne, quand même ça serait des têtes couronnées, marquis ou gros industriels. Auquel cas contraire que ses parents seraient malheureusement décédés dans l'intervalle, je révèle ici le second but de notre mariage à nous deux, la veuve Canada, qui serait de légitimer la dite jeune personne, Mademoiselle Saphir, d'en faire notre fille à chaud et à sable, solidement, avec tous les papiers, et unique héritière du magot, dont elle est la principale auteure que nous avons été susceptibles de l'amasser par notre économie. C'est du commencer par le commencement. Le lundi 30 avril 1852, 8 heures du soir, nous arrêtâmes notre voiture traînée par Sapajou, qui était notre cheval, déjà malade de l'affection vétérinaire dont il est mort, sur la place de Maison-Alfort, entre Charenton et Villeneuve-Saint-Georges, venant de Paris, place du Trône, foire au pain d'épices, destination Melun pour la fête, avec permission des autorités. La veille, on avait prononcé, moi et Madame Canada, des paroles inconséquentes, analogue au souhait de la fable, sur la matière qu'on voudrait bien nous voir tomber du ciel, une minette jolie comme les amours de Vénus et Paphos à Cythérée, pour la coller au balancier. On avait été écouté indiscrètement, non pas par l'oreille des fées, mais par une oreille plus fine encore, celle du jeune Saladin, premier avaleur de sabre et triangle dans la musique, fils naturel de Similor, mon ex-ami, inséparable jusqu'à la mort. J'en aurai long à dire sur ces deux-là, le père et l'enfant, dont les dévergondages nous ont causé les seuls désagréments sensibles de ma carrière, menteurs, grugeurs, voleurs, etc. Mais je préfère ne pas ternir leur réputation, qu'est le seul bien des personnes malaisées. À 8 heures 30, Saladin arriva donc avec une petite demoiselle de 2 ou 3 ans, plus jolie encore qu'on ne l'avait souhaité, qu'il nous vendit au comptant 100 francs, dont Madame Canada trouva le prix raide dans le premier moment, mais que vous lui en auriez offert vainement plus tard le double et le triple, jusqu'au moment où même son pesant d'or ne l'aurait pas porté à s'en défaire, l'intérêt commercial se joignant à l'affection maternelle dans son cœur pour s'y opposer. L'enfant était évanoui, pour avoir eu peur pendant le voyage, je suppose, et Similor, à qui on ne pouvait refuser sans injustice, qu'il a tous les talents de société et autres, la repiqua par un truc à lui. comme quoi elle s'endormit peu de temps après entre Madame Canada et moi dans notre propre chambre où nous passâmes une partie de la nuit à contempler sa beauté, disant que c'était une petitesse de la part des auteurs de ses jours de l'avoir lâchée ainsi comme ça pour 60 francs, car Saladin avait bien dû gagner 40 francs pour le moins sur le marché. Quoiqu'il l'avait peut-être tout uniquement chipé, c'est plus dans sa nature adroite comme un singe. Et de manière ou l'autre, il en fut le bœuf, car Similor lui contrepinça la somme tout entière à l'abri de l'autorité paternelle d'un tuteur. Cela nous amusa, Amandine et moi. C'était farce. Faut qu'il y ait bien des amertumes au-dedans de moi, par suite de leurs fautes et indélicatesses répétées, pour que je parle ainsi d'Amédée Similor, mon ami de cœur, et de Saladin, dont j'ai été son unique nourrice, l'ayant abreuvé et sevré de mon lait à mes frais dans son enfance. Sa défunte mère n'avait pas une bonne conduite, buvant avec tous les militaires, même invalides, mais quel cœur! Enfin, n'importe, on a chacun les défauts de sa nature. Dans le règne animal, on connaît des sujets dont tout est bon, même les rebuts. Semblablement, la petite ne nous fut pas à charge une semaine, car dès le premier dimanche que nous travaillâmes en foire à Melun, Saladin lui arrangea une crèche avec tout son bon goût qu'il avait, le polisson, et nous la fîmes voir entre deux bestiaux en qualité d'enfant Jésus. Mademoiselle Freluche faisait l'étoile qui guide les rois mages, représentée par Cologne, Poquet et Similor. Nous étions, Madame Canada et moi, Saint-Joseph et la Vierge. Saladin jouait l'ange. La petite était si jolie que tout Melun vint la voir à la queue-leu-leu. J'ignore pourquoi on parle des anguilles de cette localité, située dans le département de Seine-et-Marne. On y mange de bons lapins de choux à cause de la forêt de Fontainebleau, célèbre par son palais royal avec pièces d'eau et carpe, longue comme moi, due à Henri IV ou François Ier et la belle Gabrielle. En voyageant, on apprend les particularités de ce genre. On eut 130 francs de boninettes à Melun, tout frais fait. Et Similor demanda 12 francs de guilt ou gratification, comme quoi il avait l'autorité sur celui qui avait levé la petite. Crainte de scandale, on en fixa les appointements journaliers à 75 centimes provisoirement, et ce fut Similor qui les toucha. Saladin lui dit, « Papa, tu as bien fait de jouer de ton reste. Quand tu vas être vieux et quand je vais être fort, je m'assoirai sur ton estomac pour t'aider à respirer. » C'est là ce que récoltent les mauvais pères par suite de la justice de Dieu. Comme ça, la petite, presque au maillot, gagnait déjà par an 275 francs 15 centimes, par mois 22 francs 50 centimes. On en met au nombre des enfants célèbres, qui n'ont pas débuté si gentiment dans leur spécialité. Elle ne parlait pas du tout du tout. De ce qu'on bavardait autour d'elle, elle avait l'air de ne rien comprendre. Madame Canada n'était pas fâchée, parce qu'une sourde muette, ça attire la curiosité, pouvant servir en outre dans les pantomimes. Mais moi, je voyais bien qu'elle n'était ni muette ni sourde. L'observation est une de mes nombreuses aptitudes. J'ai traversé l'humanité sans faire aucune poussière, néanmoins, je connais mes talents. Pour moi, l'enfant était comme un couvreur qui a eu l'imprudence de tomber d'un 5e étage sur le pavé, assez heureux pour ne pas se tuer, mais restant étourdi plus ou moins de temps. Elle ne se portait pas mal, mais sa petite cervelle n'était pas bien à sa place. Similor m'appela plus d'une fois maladroit à l'égard de cette opinion, mais je m'en moque. Similor brille plus qu'il ne pèse, et quand il le voudra, malgré nos âges, je lui ferai encore une façon au sabre ou à la canne, ne craignant pas les combats. Saladin est bien plus coquin que lui. Il a le sang-froid du traître dans le sonneur de Saint-Paul et la grâce de Dieu. La preuve que je ne faisais pas erreur, c'est qu'un beau matin, à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, la chérie se mit à chanter, je ne sais plus quelle mignonne petite chanson, qui fit rire et pleurer Madame Canada. Nous la mangeâmes de baisers. Elle s'accoutumait à nous très bien, et je crois qu'elle nous aimait déjà. Faut dire qu'elle était une idole pour nous, on l'élevait dans du coton. Si Milord aurait voulu qu'on la donne tout de suite à Mademoiselle Freluche pour l'exercice et les principes de la corde, mais Amandine et moi, nous nous tenions. On fut inflexible, se bornant à lui dire « Tiens-toi droite et mets tes pieds en dehors », comme aurore d'une éducation prochaine. J'ajoute que la caisse n'y perdait rien. En foire, avec un enfant joli et obéissant, vous pouvez remplacer hardiment une troupe de singes qui coûte des 12 à 14 francs tous les jours, souvent malade et sujet à périr par la poitrine, dont la perte de chaque sujet va dans les 150 francs. Autant vous diriger le grand opéra, où la personne a du moins les secours du gouvernement. J'en dis autant des chiens, jamais contents de leur nourriture, quoique bonnes bêtes au fond, et amis des hommes, mais perdus de vermine, par quoi la propreté est incapable dans tous les lieux qu'ils fréquentent. Si vous voulez maintenant que je vous donne mon avis sur les ménageries ambulantes, ça fait tout simplement pitié. L'orgueil d'avoir un lion ou un éléphant a ruiné bien des pères de famille, sans parler que l'animal féroce mange toujours son bienfaiteur un jour ou l'autre. La Providence l'a voulu en attribuant ses instincts carnassiers au serpent pour qu'il morde, au tigre pour qu'il griffe. Pour s'y retirer dans les bêtes sauvages, il n'y a que les phoques et les moutons mérinos assez patients pour qu'on lui réussisse l'opération de la cinquième patte du phénomène vivant en bois ou caoutchouc, bien planté, et que rien ne paraît quand la cicatrice est tenue propre. En plus qu'alors, l'animal valétudinaire manque d'appétit et coûte peu pour la nourriture. Le phoque, encore plus avantageux, vit de vieux chapeaux de feutre mou. C'est supérieur aux clowns et jongleurs qui sont généralement de mauvais sujets. L'homme squelette vous ruine en châterie. La femme colosse lui faut des 4 et 5 livres de veau par repas avec bière et tabac. Et si elle est à barbe, ne m'en parlez pas, elle a des passions que je n'oserais même pas préciser dans mes souvenirs. Eh bien tout ça, ce n'est rien auprès des jumeaux siamois, ni des papas qui jouent au volant avec leurs petits. Vous n'avez pas une paire de siamois bien collés pour moins de 6 francs par jour. Et le café, faut les servir, ils sont mal embouchés et passent leur vie à se battre réciproquement l'un contre l'autre. Il n'y a pas plus mauvais que la jeune fille en céphale et l'homme qui écrit avec son pied. Pour abréger le phénomène, c'est la gale, gonflée d'orgueil et méprisant les personnes naturelles bien proportionnées. Je donnerai mon adresse dans le courant de cet ouvrage. Ceux qui souhaiteront des renseignements détaillés sur la baraque pourront me consulter. Aucun des secrets de l'État ne m'est inconnu, depuis l'électricité jusqu'à la tireuse de cartes. Cet écrit étant destiné seulement à la famille de la jeune personne, je m'arrête, ajoutant que le ventriloque fait une heureuse exception et chérit ses semblables, toujours remplis de bonnes mœurs quand il est à jeun. Dommage qu'il pompe trop souvent et que la boisson le hérisse. J'en reviens à l'avantage de l'enfant chez l'artiste. Pour Madame Canada et moi, plutôt périr que d'en arracher un à la douceur du foyer domestique. Quoi qu'on voit dans les journaux des exemples de mioches traitées avec une barbarie pire que les sauvages. La petite était à nous, puisqu'on l'avait achetée et payée. Et cédant à mes sentiments spontanés, je fais savoir aux pères et mères assez maladroits pour couvrir leurs petits de bleu à l'aide d'instruments contondants que ce n'est pas raisonnable. Ils pourraient les vendre de 50 à 100 francs la pièce, plus cher même s'ils ont un talent, et jusqu'à 1000 francs si c'est des monstres. Sans être monstre et sans talent extraordinaire, le simple enfant, joli de figure, peut rapporter à la baraque autant que n'importe quel crocodile si la troupe contient un homme de talent capable de faire un ouvrage dramatique. Or, nous étions 3 dans ce cas à la maison. Moi d'abord, de qui la jeunesse fut imbue de Bobino et de l'Odéon. Amédée Similor, qui comptait des années de figuration sur les planches, et Saladin, né là-dedans, puisqu'à l'âge de 2 ans, il avait rempli le rôle d'un enfant de carton dans une pièce à grand spectacle, rappelée à la fin avec Monsieur Mélingue et Madame Laurent. J'étais étonnant pour l'imagination. Similor trouvait des trucs, mais Saladin avait le génie. Quel auteur! Il faisait ce qu'il voulait avec n'importe quoi. Il vous habillait l'enfant comme un gant, dans un rôle charmant où elle n'avait qu'à se montrer pour faire 12 à 15 francs de recette. La petite fut tour à tour Moïse sauvé des eaux par la princesse égyptienne, Zéliska, ou l'enfant préservé par un chien de la morsure d'un serpent boa d'Amérique, Wenceslas, ou le petit prince sauvé d'un incendie par le hussard de Felsheim, que sais-je. Saladin était plus fécond que Monsieur Scribe. On lui donnait 30 sous par pièce une fois payé. Comme il jouait au bouchon supérieurement et qu'il trichait mieux encore aux cartes, il cachait de l'argent partout. Mais Similor trouvait toujours le magot qui passait en consommation à la faveur de la puissance paternelle. Pendant toute la première année, l'enfant fut affiché et annoncé sous le nom de Mademoiselle Cerise, à cause d'une circonstance exceptionnelle qui sera notée plus tard en faveur de ses parents. À la fin des 12 mois, Madame Canada et moi, nous voulûmes savoir ce que Mademoiselle Cerise nous avait rapporté. Mes comptes sont le modèle de la partie double. Après 10 minutes de chiffres, je pus dire que l'enfant nous avait valu 1 629 francs, quitte de tout frais. C'était à Orléans, Loiret, sur la place du marché. Madame Canada me dit « C'est superbe, je paie le café. »« J'accepte, répondis-je, la Californie est à la maison, c'est agréable. »« Et la satisfaction aussi, ajouta Amandine, car je l'idole cette chérie-là, et j'aurai une fillette à moi que je ne l'aimerais pas tant. » Madame Canada jouit d'une juste renommée pour fricasser le café. C'est un velours qui sort de ses mains, ne ménageant aucun des ingrédients qui peuvent ajouter à son charme. Elle en fit une pleine bouilloire, car nous n'avions plus à y regarder de si près, étant favorisés par la recette. On passa la nuit tout entière à parler de la petite. C'est sûr qu'en vieillissant, on devient meilleur, car Amandine partage maintenant le désir honorable que j'ai de retrouver les parents de la jeune personne. Cette nuit-là, ce n'était pas ainsi, puisqu'elle me dit « Cerise, ce n'est pas un nom. »« C'est drôle, objectai-je, ça tape l'œil sur l'affiche. »« Possible, mais c'est un écriteau sur son dos. Si on le lui laisse, les parents sont capables de deviner la charade. Alors, comme elle vaut de l'argent, avant 10 mois, on viendra nous la reprendre. » C'était clair, on verra bientôt pourquoi. « En définitive, les parents l'ont vendue, répondis-je, sans être bien sûr que je disais la vérité. » Madame Canada haussa les épaules. « C'est clair, fit-elle pourtant, avec empressement. » Mais au fond du cœur, nous avions tous deux la même idée. Les parents d'un ange pareil, ça doit être dans l'opulence. « En foi de quoi, achevai-je, puisque le droit y est, gardons ce que nous avons payé et cherchons un autre nom à la minette. » Ce qui fut dit fut fait. Et Dieu sait que nous nous donnâmes de la peine. Chaque fois que nous trouvions un nom nouveau, il était épluché, discuté, puis rejeté, parce qu'il ne valait pas celui de Cerise qui était venu tout seul. Et pendant tout cela, nous regardions cette chère figure blanche et rose, toute ronde, qui dormait en souriant dans son berceau, une vraie cerise en vérité. Car elle l'avait si bien repris, notre petite, c'était un charme que sa fraîcheur. C'est qu'aussi elle était dorlotée, mieux que chez des grands seigneurs. Nous en étions à jeter notre langue au chien lorsque Cerise ouvrit ses grands yeux bleus et nous regarda. « Ah, deux saphirs !» dit Madame Canada. « Saphirs !» répétai-je. Et l'enfant eut son nom. Elle rabaissa ses longues paupières et se rendormit. Le lendemain, il fut défendu d'appeler Mademoiselle Cerise autrement que Mademoiselle Saphir. Ordre d'administration, 5 centimes d'amende. Ce fut le premier mouvement d'humeur qu'on eut découvert en elle. Mademoiselle Cerise parut fâchée d'avoir perdu son nom. Elle bouda, mais au bout de quelques minutes, il n'y paraissait plus. Elle était du reste sans cervelle, comme un petit oiseau, mais elle avait un cœur, je crois, qu'elle nous aimait déjà. Jusqu'alors, elle avait chanté quelquefois, prononçant assez bien les paroles de sa chansonnette, mais elle n'avait jamais parlé. Vers ce temps, du jour au lendemain, elle se mit à babiller, non point comme si elle l'eût appris peu à peu, mais comme si elle se souvenait tout d'un coup. Ceci était d'autant plus sûr que son babil ne venait point de nous. Elle ne répétait jamais ce que nous avions l'habitude de dire. C'était autre chose, des choses que nous ne comprenions pas toujours. Elle causait de Médor, de la bergère, de la laitière. Tout ça indiquait suffisamment qu'elle avait été élevée à la campagne. Elle n'appelait point son papa. Quand elle disait « maman », elle avait un tremblement, preuve qu'on avait dû la battre. Du reste, il ne servait à rien de l'interroger. Elle vous regardait tout à coup sans comprendre, ou bien elle pleurait à chaudes larmes. Nous essayâmes 100 fois de savoir le nom de sa famille, ou tout au moins le nom qu'elle portait chez ses parents. Impossible. Vous auriez dit qu'elle n'avait plus de mémoire. Et pourtant, elle se souvenait très exactement de tout ce qui s'était passé depuis son arrivée à la maison. Madame Canada était contente de cela. Elle disait « Ça fait que la mignonne est née native de la baraque, puisque tout le reste est pour elle ni vu ni connu. Je vais donc arriver à son éducation. » Madame Canada n'était pas aussi instruite qu'elle l'aurait désirée, quoique étonnante pour se faire casser des cailloux sur le ventre, le café noir et l'esprit naturel. Moi, j'étais pris par les soins du ménage, la tenue des livres et la rédaction du boniment, que j'en ai toujours fourni à la foule de nombreuses variétés, tous agréables et fardés du mot pour rire. Saladin en savait long. Quand on eut résolu, moi et ma femme, qu'on donnerait à l'enfant l'enseignement d'une princesse, je songeais tout de suite à Saladin pour la lecture, l'écriture et compter. Cologne pouvait la pousser en musique jusqu'à la tyrolienne, si Milord eût été pour l'escrime, toujours séduisante en foire de la part d'une dame, et la danse des salons, pour quant à laquelle vous chercheriez en vain son émule dans Paris. Enfin, gardons le principal pour finir, Mademoiselle Freluche devait lui enseigner tous les secrets de la corde raide, dont nous comptions qu'elle ferait sa carrière sérieuse. Au surplus, Poquet, dit Atlas, se proposa spontanément pour la chiromancie, somnambulisme et tour de cartes qu'il avait pratiqué avec succès dans plusieurs villes de l'Europe. Les rêves de papa et maman n'ont presque jamais été le frein de la modération. Moi et Madame Canada, plus chauds et bouillants que des vrais pères et mères, de qui nous tenions la place, nous n'étions pas encore contents. Madame Canada avait été désossée dans sa petite jeunesse. Elle disait souvent qu'il serait peut-être opportun, pour l'avenir de l'enfant, de lui lâcher les articulations. Et moi, je proposais de lui inculquer, à mes moments perdus, ce qui me restait de pharmacie. On repoussa l'avalage du sabre, par une circonstance que je vais noter tout à l'heure, mais il fut convenu qu'en revenant à Paris, l'enfant irait à l'atelier Cœur d'Acier prendre des leçons de peinture artistique auprès de Monsieur Baruc et de Monsieur Gondrequin militaire, à qui sont dus les premiers tableaux de la foire. On ne peut pas dire que tout ça fut de vains songes. Néanmoins, il y en avait trop pour une seule jeune personne qui dépassait à peine sa 3e année. C'est pourquoi, moi et Madame Canada, nous commençâmes par continuer de la laisser boire, manger, dormir en toute liberté, sauf une petite leçon que donnait tous les matins Mademoiselle Freluche. Je note ici pour les parents, les vrais, deux particularités et un phénomène. Le phénomène, c'est la cerise que l'enfant portait, et porte encore, entre le sein et l'épaule droite. Au jour d'aujourd'hui, elle a 14 ans, et la cerise n'est plus si rose, mais on la voit encore très bien. Ai-je besoin d'ajouter que ce phénomène était l'origine de son premier prénom? Cela me paraît superflu, mon lecteur l'a deviné. Les particularités, les voilà dans leur ordre naturel. Premièrement, pendant bien longtemps, la petite ne vint au théâtre que pour figurer ses rôles. On la portait dans la crèche de l'enfant Jésus, ou dans le berceau de Moïse, et puis on la remportait, c'était tout. Elle ne connaissait rien de ce qui se faisait chez nous. Un soir, peu de temps après qu'elle eut retrouvé la parole, je l'emmenai avec moi pour qu'elle vît danser Mademoiselle Freluche, histoire de lui donner du goût pour la partie. Aussitôt que Mademoiselle Freluche bondit sur la corde, la petite se mit à trembler, comme elle faisait toujours, en appelant sa maman, mais plus fort. Elle se leva. Elle était aussi blanche qu'un linge et semblait hors d'elle-même. « Maman, maman, maman » dit-elle par 3 fois. « Sous la rivière, le pont, la rivière, je ne sais plus. » Ce dernier mot vint après un grand effort et l'enfant se rassit épuisé. Madame Canada eut le soupçon que sa maman était danseuse de corde, moi pas. On eut beau interroger la petite, elle ne dit rien. Le vrai, c'était son mot, « je ne sais plus ». Et je marque ma pensée telle qu'elle fut. Sous la fenêtre de l'appartement où demeurait l'enfant, une danseuse de corde avait coutume de travailler. C'était auprès de la rivière et vis-à-vis d'un pont. Deuxièmement, Saladin tourmentait souvent pour qu'elle vînt le voir avaler des sabres. N'y a-t-il pas plus orgueilleux que ce blanc-bec-là, ayant toujours gardé vis-à-vis de lui la faiblesse d'une mère nourrice, je cédais à ses désirs. D'ordinaire, l'enfant jouait volontiers avec Saladin, qui est un gentil garçon et qui se montrait très complaisant pour elle. Quand il entra en scène, la petite le regardait en souriant, mais à peine eut-il mis la pointe du sabre dans sa bouche qu'elle se rejeta violemment en arrière, disant comme l'autre fois « Maman, maman, maman !» Elle tremblait convulsivement, ses yeux tournaient, elle ajouta entre ses pauvres petites dents qui grinçaient « C'est lui !» et elle tomba inanimée. Il faut vous faire savoir que nous eûmes une idée, moi et Madame Canada. Le dernier soir de la foire au pain d'épices, place du Trône à Paris, il était venu une petite dame avec une minette jolie, mais là comme toute une panerée d'amour. Eh bien, comme le Saladin avait commencé d'avaler des sabres ce soir-là, la minette de Paris avait crié et pleuré, disant « Qu'il est laid, qu'il est laid !» Et notre Saladin s'était mis en colère, étant pétri d'orgueil. Le malheur, c'est qu'il y a trop longtemps maintenant que toutes ces choses sont passées. Si on avait cherché tout de suite, on en saurait plus long, mais on avait l'excuse d'être loin de Paris. Toujours il y a que, quand Mademoiselle Saphir montra une si grande peur de l'avalage, moi et Amandine nous pensâmes subito à la minette de la place du Trône, et ça nous donna de la peine, parce que la petite dame vous avait l'air de raffoler de son enfant. On voulut s'informer de Saladin, mais Saladin disait ce qu'il voulait, et tous les jours il devenait plus insolent, courant les tripots et se faufilant avec des mauvais sujets dans diverses localités. Il nous méprisait à haute voix, et ses camarades l'appelaient marquis, et ça enflait son amour-propre. Je n'avais pas beaucoup de relations avec Similor, qui ne cherchait qu'à tirer de l'argent de nous. Mais pour le peu que nous causions ensemble, je vis dès ce temps-là que ce coupable père essayait de garder son influence sur le blanc-bec plus rusé que lui, en se vantant de nos anciennes fredaines et en lui racontant nos aventures avec les habits noirs. C'est vrai que, pour ma part, j'ai connu les habits noirs, ayant tenu une agence dans le propre escalier du grand monsieur Lecoq de la Perrière. Si je voulais révéler dans mes présents mémoires tout ce que j'ai vu et entendu, mêlé comme je l'étais, à des notaires et à des nobles, que je faisais la poule avec leurs domestiques au fameux estaminet de l'épicier, j'étonnerais bien du monde. J'ai rencontré plus d'une fois, nez à nez, le fils de Louis XVII, qui était blond comme une quenouille, la comtesse Corona, plus belle que les déesses de la fable, et je voyais tous les jours trois pattes, l'ancien mari de la baronne Schwartz, qui finit par couper le cou de monsieur Lecoq avec la porte d'un coffre-fort. Cela semble drôle, mais quand c'est poussé raide, ça vaut la guillotine. Assez causé là-dessus. D'ailleurs, à travers toutes ces aventures, j'ai su garder ma considération, qui m'est plus chère que l'honneur. Dès que j'ai pu travailler, j'ai laissé le restant des habits noirs pour ce qu'ils sont. Mais Similor, avec ses habitudes d'élégance et ses vices de mange-tout, avait toujours conservé l'idée de retrouver les débris de l'association et de s'en servir pour faire sa fortune. Saladin mordait à cela, et c'était la seule supériorité que son père eût gardée sur lui. Mais cet écrit n'est pas plus destiné à détailler les maladresses de Saladin et de Similor que les crimes des habits noirs, avec lesquels, au prix de mon aisance, je ne voudrais pas renouer mon ancienne connaissance. Je manie la plume pour être utile à notre fille d'adoption, et je veux m'étendre seulement sur ce qui la regarde. C'était, dès ce temps-là, un drôle de petit caractère, et des plus philosophes que moi n'auraient pas su le définir. On ne peut pas dire qu'elle était gaie, quoiqu'elle eût toujours son joli sourire sur les lèvres. Il y avait, derrière ce sourire, je ne sais quoi qui restait triste ou plutôt froid. Elle nous aimait à sa manière. Elle semblait contente de nos caresses, elle nous les rendait, mais froidement. Je cherche à dire ça comme c'était juste. Le froid ne se montrait pas, il se devinait. Moi et Amandine, il n'y a pas de chose qu'on ait faite pour deviner ce qu'il y avait dans ce petit cœur. Nous l'aimions si tendrement que l'idée qu'elle souffrait en dedans et qu'elle nous cachait sa peine serrait semblablement nos deux cœurs. Avait-elle des souvenirs? Les cachait-elle? Ne pouvait-elle prendre en nous la confiance qu'il fallait pour nous dire son pauvre petit secret? Ou bien, comme nous l'avions pensé si souvent, le coup qu'il avait séparé de sa famille laissait-il des traces dans son cerveau? Il y a des moments où son regard fixe semblait dire « Je cherche au fond de ma mémoire vide et je n'y trouve rien ». C'était le plus souvent ainsi, quand elle se croyait seule et non observée. D'autres fois, son grand œil bleu s'allumait tout à coup, il semblait qu'elle allait renouer le fil rompu de ses souvenirs, et sa charmante figure prenait alors une expression de joie. Mais tout cela s'évanouissait, ses yeux s'éteignaient, elle redevenait pâle, et les grandes boucles de ses cheveux blonds retombaient comme un voile sur sa figure qui ne disait plus rien. « Moi, répétait souvent Amandine, j'ai idée que la pauvre ange finira folle. Quel malheur !» En attendant, elle grandissait en bonne santé et en talent. Il commençait à nous l'envier en foire, et si nous eussions voulu nous en défaire, on nous en aurait donné une jolie somme, car les calés de la partie nous croyaient encore pauvres, rapport au mauvais état de la baraque, et ne se gênaient pas pour nous faire des propositions. Mais sans parler des espérances qu'on avait fondées sur ses débuts comme danseuse de cordes, moi et Amandine, nous n'aurions pas voulu nous séparer d'elle pour des mille et des cents, et comme Saladin, qui nous l'avait apportée, était bien capable de nous la subtiliser, je lui dis, une fois pour toutes, en présence de son père et avec l'approbation de Madame Canada, « Toi, quoique j'aie gardé à ton vis-à-vis la faiblesse d'un père nourricier, si tu t'avises d'y toucher, je t'écrase. » À la baraque, ils connaissaient tous la douceur de mon caractère, et ils savaient que, quand une fois que je faisais une menace, c'était comme du papier timbré. Saladin, du reste, ne détestait pas l'enfant, bien au contraire, il y avait des moments où nous craignions qu'il ne l'aimât trop un jour venant. Il s'occupait d'elle et de son instruction beaucoup plus que ses habitudes dissolues n'auraient pu le faire espérer. Il se levait matin pour lui donner sa première leçon, et bien souvent le soir, au lieu d'aller à ses plaisirs, il dépensait encore une heure à la faire écrire et lire. De son côté, la petite lui témoignait une reconnaissance douce et froide. Elle était avec lui comme avec nous, impénétrable. Je parle ici tout à la fois de plusieurs années, car dès l'âge de 3 ans, et comme plus tard à 12 ou 14 ans, Mademoiselle Saphir fut toujours pour nous une énigme. Non, pas du tout qu'elle se montrât cachotière ou qu'elle s'éloignât de notre société. Toujours et partout, elle fut la joie de notre intérieur à moi et à Amandine. Mais enfin, si c'était mon métier d'écrire, je me ferais peut-être mieux comprendre. L'enfant avait quelque chose qu'elle ignorait ou qu'elle dissimulait et qui nous faisait donner au diable. Dans les premières années, cette chose, que ce fût ou non un souvenir, se traduisait par ce tremblement dont j'ai parlé, et ce cri toujours le même « Maman, maman, maman !» Mais plus tard, comme cet appel à sa mère lui attirait nos questions et qu'elle n'en voulait pas, peut-être parce qu'elle ne pouvait vraiment pas y répondre, elle choisit elle-même une autre formule, et dans ces crises, qui se résolvaient la plupart du temps par des larmes, elle n'appela plus que Dieu. Ce fut à Nantes, grande et belle ville qui est située sur la rivière, dans le département de la Loire inférieure, que Mademoiselle Saphir fut plantée pour la première fois sur les grandes affiches comme premier sujet pour la corde raide remplaçante de Madame Saki. Mademoiselle Freluche en eut une forte jaunisse, mais le reste de la troupe approuva notre mesure, car déjà, depuis plus de 6 mois, notre petite Saphir avait tout ce qu'il fallait pour se montrer au public et mériter sa bienveillance, même au sein de la capitale. Elle avait 6 ans, elle était très grande pour son âge et admirablement élancée. Moi et Amandine, nous lui avions fait faire un costume d'azur en conformité avec son nom. Quand elle parut, semblable à un nuage bleu de ciel, il y eut dans le public de la baraque un grand murmure qui n'était ni de l'admiration ni de la surprise, mais qui était tout simplement de l'amour. Voilà ce que je peux dire, parce que je l'ai vu partout, aussi bien dans les villes de l'Est que dans celles de l'Ouest, dans le Midi comme dans le Nord de la France, les spectateurs se prenaient pour elle de tendresse, on la caressait du regard, on l'applaudissait tout doucement, et la salle entière souriait d'émotion et d'aise. Ce fut ainsi toujours tant qu'elle resta enfant, et cela ne fit que croître et embellir quand elle devint demoiselle. Pour en revenir à ses débuts, il y avait chambrée complète, parce qu'on affichait depuis 3 jours avec permission de monsieur le maire. Il ne faut pas plaisanter avec les noms. Un nom ne fait pas le succès, mais il y contribue diantrement, et je vous prie de croire que celui de Mademoiselle Saphir, dû à moi et à Madame Canada, n'était pas une inconséquence. On l'avait imprimé en lettres bleues, à facettes qui semblaient composées de diamants. Il tenait le beau milieu de l'affiche et semblait rayonner dans un large espace vide. Tout Nantes l'avait regardé, et tout Nantes s'était dit « Qu'est-ce que c'est que Mademoiselle Saphir est là-bas ?» Et pour savoir, tout Nantes était venu voir, si bien qu'on avait refusé du monde à la porte en quantité. Les voisins de la foire enrageaient à faire pitié. Elle dansa comme un chérubin, sans crainte ni trouble. Le public ne lui faisait rien. Elle s'était habituée à la foule dès sa plus petite enfance, dans la crèche, et d'ailleurs, elle nous l'a dit souvent depuis, elle ne voyait pas le public. Les applaudissements la berçaient ou l'animaient comme une musique. Jamais ils ne l'exaltaient. Elle avait une danse que les connaisseurs appelaient « classique » et qui était d'une pureté enchanteresse. Amandine disait en riant, mais avec la larme à l'œil, « Ah, si par cas on danse sur la corde en paradis, ça doit être de même pareillement. » Ce fut une soirée solennelle, et je suis vexé de n'en avoir pas la date exacte pour la signaler ici, mais à vue de pays, ce doit être vers la fin de mai de l'année 1858. À la baraque, nous étions tous transportés. Mademoiselle Freluche elle-même oubliait les regrets de l'ambition trompée pour admirer son élève. Similor enflait ses joues et disait « Il y a du tabac dans cette poupée-là ». Il parlait toujours argot ou approchant, par suite de ses mauvaises connaissances en ville. Je l'entendis et je vis dans un coin de la coulisse les deux yeux de Saladin qui flamboyaient. Je le montrai du doigt à mon Amandine et nous convînmes entre nous de redoubler de surveillance au vis-à-vis du Blanc-Bec qui devenait un homme. « Ah, quoique, dit-elle dans sa joie, il est bien permis aux méchants drôles d'être émerveillés, comme tout le monde. » Quand Mademoiselle Saphir fit sa dernière évolution sans balancier, elle retomba au milieu d'une pluie de bouquets. Outre que moi et Madame Canada nous avions dépensé une trentaine de sous et 5 à 6 places données à des amis pour l'encourager dans son premier pas à l'aide de bouquets d'administration, il y avait des gens qui étaient sortis tout exprès pour acheter des lilas et des roses. Ceux qui n'en avaient pas criaient qu'ils en apporteraient le lendemain. Sans exagérer, je puis spécifier que la portion des habitants de Nantes rassemblée ce soir au Théâtre français et hydraulique, dont j'étais en nom dans sa direction, maintenant avec Madame Canada, manifestèrent des transports approchant de la démence. Dès qu'elle l'eut fini, presque tout le monde s'en alla, et il ne resta pas 30 pelés pour voir Monsieur Saladin avaler ses sabres. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble résulter de mes observations que la partie de la valeur, si intéressante pourtant, continue de baisser dans notre partie. Tout change. J'ai vu une époque où vous auriez fait courir l'élite d'une ville rien qu'en annonçant l'avalage opéré par un artiste d'un mérite inférieur à celui de Saladin, qui, malgré les défauts de son cœur et de son esprit, comprenait joliment son affaire. Mademoiselle Saphir regagna notre retraite entre deux haies formées par la troupe. Cologne Poquet et Similor lui-même battaient des mains sur son passage. Elle n'en paraissait pas plus fière, mais quand Madame Canada, inondée des larmes de son bonheur, voulut la presser sur sa poitrine, la petite eut comme un spasme. Elle se rejeta en arrière, elle trembla et nous devinâmes sur ses lèvres ces mots qu'elle ne prononçait déjà plus. « Maman, maman, maman ». L'instant d'après, elle s'élança vers sa mère d'adoption et la couvrit de caresses. « Vieux, me dit Similor, toujours prêt à profiter des circonstances pour subvenir aux besoins de son existence déréglée, c'est des dérisions que de récompenser par 75 centimes le talent d'une telle artiste incomparable. Ayant toujours la tutelle de mon fils Saladin, qui sera majeur seulement dans 8 mois, j'exige que les feux de Mademoiselle Saphir soient portés à 1 franc 50 centimes journellement, et que je les touche. » Madame Canada voulait refuser, mais dans le but de garder la paix intérieure, je consentis à cette nouvelle exagération de mon ancienne amie. « Laisse bouillir le mouton, dis-je à ma compagne. Saladin, sans le vouloir, a payé bien cher les soins que je donnais à sa petite enfance. N'oublions pas que nous lui devons Mademoiselle Saphir, et que Mademoiselle Saphir est la poule aux œufs d'or qui nous permettra de passer nos vieux jours dans l'opulence. Ce n'est pas trop dire. Le lendemain, plus d'affiches, mais en revanche, devant la galerie où se faisait le boniment, une petite pancarte annonçait que, pendant les représentations de Mademoiselle Saphir, le prix des places serait momentanément doublé. Les collègues de la foire vinrent lire la pancarte dans la matinée et désapprouvèrent la mesure à l'unanimité. Nonobstant, dès la première fournée, nous refusâmes du monde, et avant de nous coucher, je pus compter 150 francs de bénéfices. C'était le Pérou, l'Eldorado, le rêve impossible. On n'avait jamais rien vu de pareil. Nous restâmes 10 jours à Nantes. Nous aurions pu rester 100 ans s'il y avait des foires de cette durée. La recette n'avait pas baissé d'un centime. Mais que nous importait désormais d'aller ici ou là? Nous avions avec nous notre talisman. Nos résidences pouvaient changer de nom, notre succès était toujours le même. Toutes les villes de France, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Rouen, Lyon, Lille, Strasbourg et autres, versèrent tour à tour dans nos coffres le témoignage de leur admiration. Nous n'avions qu'à nous présenter pour réussir. La renommée de notre étoile nous précédait désormais, et plusieurs conseils municipaux des localités secondaires nous firent des offres exceptionnelles que notre intérêt nous contraignit de refuser. En 1859, au mois d'août, le Théâtre français hydraulique fut dépecé pour être vendu au Vieux Bois. À son lieu et place, sur le terrain de foire de Saint-Sever sous Rouen, fut inauguré le Théâtre de Mademoiselle Saphir, avec ce simple frontispice « Prestige, élévation, grâce, adresse ». C'était un assez beau monument, quoique portatif par le démontage. Un peu moins vaste que les établissements de Messieurs Cocherie et Laroche, il pouvait passer pour plus élégant. La salle, spacieuse et commode, était calculée pour l'agrément du public, contenant beaucoup de premières, quelques secondes pour les gens sans façon et les militaires, mais point de troisième, la populace n'étant qu'un embarras dans les spectacles qui s'adressent surtout à la haute société. Nous n'y allions pas par quatre chemins, nos premières étaient à 50 centimes. On doit penser à quel chiffre considérable les recettes peuvent monter avec de pareils prix. Le lecteur s'étonnera peut-être de n'avoir point vu Paris parmi les villes qui furent à même de rendre hommage à Mademoiselle Saphir. Je n'ai pas pris la plume sans me résoudre à tous les aveux. Paris ne connaissait pas Mademoiselle Saphir. La même pensée, peut-être coupable, qui nous avait porté autrefois à lui enlever son premier nom de cerise, nous induisait, moi et Madame Canada, en quelque sorte à notre insu, à fuir la capitale où nous étions menacés de perdre notre adoré trésor. Qu'on ne se méprenne point, je ne fais pas allusion aux bénéfices considérables que nous procurait notre fille d'adoption. Le mot trésor s'applique uniquement ici aux choses du cœur. Je ne méprise pas l'argent, Madame Canada est dans le même cas, mais entre l'argent, tout l'argent de la terre et notre bien-aimée fille, elle n'hésiterait pas un seul instant, ni moi non plus, j'enlève la main avec elle. Cet écrit est la preuve que nos idées ont bien changé. Nous nous repentons du passé, nous ferons autrement dans l'avenir. Rien ne nous coûtera pour retrouver les parents de notre petite. Rien ne nous gênera non plus, car, Dieu merci, nous sommes libres comme l'air dans notre établissement. Quoique mon ancien ami Similor et mon nourrisson Saladin ne fussent pas nos associés, il est certain qu'ils nous dominaient souvent par leur arrogance. Similor, devenu de plus en plus paresseux et refusant toute espèce de service, ne mettait pas de borne à ses exigences au sujet des prétendus droits qu'il avait sur notre fille, et Saladin, parvenu à sa majorité, rivalisait de cupidité avec son père. Il était très habile, c'est vrai, comme artiste en foire, et je ne voudrais pas rabaisser ses talents. Il s'était fait à lui-même une manière d'éducation soignée, lisant des livres de toutes sortes dans son trou et se préparant à ce qu'il appelait « ses campagnes ». Depuis longtemps déjà, il avait cessé d'aller au cabaret et n'imitait point la mauvaise conduite de son père. Au contraire, il était rangé et même avare, quoiqu'il sût très bien risquer d'un coup toutes ses économies quand il s'agissait de commerce. Je ne peux pas m'empêcher de le dire, ce garçon-là, bien dirigé, eût été un joli sujet. L'avalage se dégommant de plus en plus, il paraissait rarement devant le public pour faire le travail des sabres, et encore prenait-il, depuis plusieurs années, de grandes précautions pour altérer son physique quand il arborait cet emploi. Il avait soin de se grimer, soit en Caraïbe, soit en Patagon, et nous en profitions pour mettre sur l'affiche le nom de ces peuplades sauvages. Chacun à la baraque lui gardait le secret, et quelquefois, en ville, il parvenait à cacher les rapports qu'il avait avec nous. Dans bien des localités, il se faisait passer pour un jeune homme de famille, voyageant pour son instruction. Aucun mauvais coup couronné d'un résultat pécuniaire n'est venu jusqu'à ma connaissance, mais je sais qu'il se faufila dans plusieurs maisons où il n'aurait point dû avoir accès, et que Similor passa plus d'une fois chez des gens riches pour être son gouverneur. Liberté, libertas. Moi et Madame Canada, nous ne sommes pas des gendarmes, mais tant va la cruche à l'eau, vous savez le reste. Nous avions peur de voir cela mal finir. Il y avait souvent des scènes. En plus que Madame Canada concevait des soupçons et me disait que Saladin nourrissait des desseins coupables contre l'innocence de Mademoiselle Saphir. Le Blanc-Bec n'en était que trop capable, quoiqu'il marquât généralement peu de galanterie pour le beau sexe. Il tenait notre chère enfant sous sa dépendance par suite des leçons qu'il lui donnait et dont elle profitait si bien. Elle ne l'aimait pas, mais elle le craignait, et nous nous étions aperçus qu'il exerçait sur elle une espèce d'autorité. Elle était grande maintenant, et presque une jeune personne. Elle savait tant de choses que je ne pourrais pas en faire le compte, mais elle avait gardé cette faiblesse d'esprit qui nous donnait tant à craindre. Quand elle était petite, elle parlait peu, ne se confiait point, et s'éloignait souvent de nous au moment même où nous attendions ses caresses. Maintenant, c'était des rêvasseries à n'en plus finir. Saladin lui fournissait des livres qu'elle dévorait en cachette. À force de chercher, j'en surpris un. C'était « Alexis ou la maisonnette dans les bois » de Monsieur Ducray-Duménil. Moi et Madame Canada nous tînmes conseil, et il fut convenu que je payerais quelque chose à un libraire pour savoir si c'était là un écrit dangereux. Mais sur ces entrefaites, un matin, Mademoiselle Saphir s'enfuit précipitamment hors de sa chambre où Saladin était en train de lui donner une leçon de grammaire. L'enfant était fort troublé, elle avait ce tremblement dont j'ai parlé tant de fois, et ses lèvres muettes appelaient sa mère, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Nous l'interrogeâmes ensemble et séparément, moi et Amandine, mais elle ne voulut pas nous répondre. Nous aurions dû être faits à cet étrange caractère, et pourtant nous éprouvâmes un grand chagrin. Le soir, j'invitai Similor et Saladin à prendre le café dans notre chambre. La chose était concertée avec Madame Canada. Je pris la parole et je dis « J'ai été pour vous le modèle des amis, Amédée, et voici un jeune homme qui me doit l'air qu'il respire, en récompense de quoi, l'un et l'autre, vous ne vous comportez pas bien à mon égard. » Il voulut se récrier, mais Madame Canada leur glissa à l'oreille « Échalot est trop doux, moi je vous aurais fait votre portrait en deux mots, vous êtes des canailles. » Je crus qu'il faudrait s'aligner, car Similor m'avait provoqué au sabre d'avalage pour bien moins que cela, plus d'une fois, mais Saladin l'arrêta au moment où il se levait, furieux. « C'est des propositions qu'on va nous faire, » dit froidement le Blanc-Bec. « Sois calme, à mon instar. » Puis, s'adressant à moi, il ajouta « Papa Échalot, vous êtes une bonne créature. Je ne vous en veux pas du tout de ce que vous avez fait pour moi. » Papa Similor m'a exploité tant qu'il a pu, c'était son droit, je l'approuve. Quant à Madame Canada, elle va nous compter 1000 francs, comme un amour de petite femme qu'elle l'est, et nous lui tirerons notre révérence pour jusqu'au jour du jugement dernier. Moi et Amandine, nous voulions en effet provoquer une séparation, et pourtant l'offre du Blanc-Bec nous prit sans verre. Pour ma part, je ne l'avais jamais trouvé si gentil qu'au moment où il nous adressa cet effronté boniment. Mais il y avait trop longtemps que ma compagne portait sur ses épaules le père et le fils. Elle se releva d'un saut, gagna son armoire et tira un sac de 1000 qu'elle jeta à Similor à toute volée, au risque de l'assommer. Si Milord n'en éprouva aucun mal, parce que Saladin, saisissant le sac au passage, s'écria « Maman Canada, je vous fais savoir que pour les paiements subséquents, c'est entre mes mains qu'il faudra verser. » Ma compagne resta bouche béante à le regarder, et moi je répétai « Comment les paiements subséquents ?»« Je suis maintenant le tuteur de papa, » me répondit Saladin, avec son sourire narquois. « Vous êtes trop juste, respectable échalot, pour nous refuser une pauvre rente viagère de 100 francs tous les mois, en considération d'avoir apporté la fortune dans votre maison. » « Soit, » répondit Madame Canada, qui était plus rouge qu'une tomate, « mais va-t'en, ou je vas te tordre le cou comme un poulet. » Saladin prit son père par le bras. « En route, ma vieille, lui dit-il, viens coucher à mon hôtel. Nous reviendrons demain matin embrasser Papa Échalot et cette bonne Maman Canada. Pourquoi se fâcher quand on peut se quitter gentiment? C'est sûr qu'il nous aime, au fond. » Si nous n'avons pas assez de 100 francs par mois, eh bien, nous le leur dirons plus tard. »